Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite annonce que j'aimerais faire, c'est qu'avec Anne-Sophie, on a été invité par des églises à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et on va partir cet après-midi pour plusieurs semaines. Et donc, on voudrait vous demander de prier pour nous, que le Seigneur nous dirige et nous place en bénédiction auprès de nos frères et sœurs là-bas. Il y aura beaucoup de réunions et donc on n'est jamais vraiment prêt pour ce genre de choses. Et donc on a vraiment besoin que vous nous souteniez dans la prière. Et puis on a aussi pris notre maillot de bain et donc on espère que les choses vont assez bien se passer quand même. 31 degrés, c'est ça ?
Ouais.
Ce matin, d'accord. Merci. Eh bien, nous reprenons notre série que l'on a commencée, sur la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Il a écrit cette lettre dans les années 56-57 de notre ère, et il faut se replacer dans le contexte de cette ville grecque du premier siècle. Corinthe, avec son orgueil intellectuel à l'époque, son idolâtrie et son immoralité, son commerce très dynamique et sa vie trépidante, une ville étonnante. Le but de cette lettre était en grande partie pour répondre à des questions que les Corinthiens avaient envoyées à l'apôtre Paul, et donc il prend le temps de répondre à chacune de leurs questions au sujet de telle chose, voici ce que je vous recommande, etc. Et puis c'est aussi une lettre pour régler un certain nombre de dysfonctionnements au sein de cette église, et le passage que nous allons voir ce matin fait partie de ces corrections qu'il fait dans cette église. Ce n'est pas un passage facile, plutôt complexe. Je vous invite à chercher dans votre Bible 1 Corinthiens, chapitre 11, et on va lire les versets 2 à 16. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas grecs, en tout cas, pas que je sache. Nous ne vivons pas au premier siècle. Ça, j'en suis sûr. Et la différence culturelle entre ce que vivent les chrétiens à Corinthe et puis nous-mêmes, rend ce passage assez difficile pour notre compréhension. Mais les prescriptions de l'apôtre Paul sont motivées par des principes qui, eux, traversent les cultures, traversent les époques, traversent les continents. Je lis donc en 1 Corinthiens 11, les versets 2 à 16. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à la cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est honteux, que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Jusqu'ici, donc, la lecture de la parole de Dieu. La première lettre aux Corinthiens soulève cette question que l'on n'associe habituellement pas aux chrétiens, hein, la question du voile. Les musulmans sont plus portés sur le sujet. Il faut quand même rappeler que le statut de la femme à l'époque du 1er siècle, dans la société gréco-romaine, n'est vraiment pas fameux. Les femmes n'avaient aucune place dans la société. Elles n'étaient pas des citoyennes. Les femmes mariées servaient à la reproduction et les autres femmes servaient au plaisir des hommes. Aristote la considérait comme un être inférieur, intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave. Socrate et Démosthène la tenaient également en petite estime et Platon recommandait la possession en commun des femmes. Alors, imaginez ce que la vision chrétienne a apporté dans culture gréco-romaine. La vision chrétienne d'une femme faite à l'image de Dieu, aussi bien que l'homme, possédant un même accès à Dieu que les hommes, et ayant la même espérance que les hommes. Mais cette bonne nouvelle a reçu un accueil chez les femmes corinthiennes et partout dans l'Empire gréco-romain. Certaines femmes de Corinthe, elles, pensaient être libres maintenant. Et du coup, libres par l'Évangile, donc elles ont cessé de porter le voile traditionnel lorsque l'Église se réunissait pour le culte. Notez que dans les versets 4 et 5, les conditions ici sont des situations publiques. Hein, c'est quand l'Église est rassemblée que Paul prescrit ces choses. Et donc, l'apôtre Paul, ici, va inviter les femmes à revenir au voile. Pourquoi ? Mais parce que notre tenue dit quelque chose. Dans une culture donnée, à une époque donnée, les pratiques vestimentaires constituent une sorte de langage, hein, et même un certain discours qui parle de classe sociale, qui parle de langage, qui parle de personnalité, de relations les uns avec les autres, qui parle de respect les uns envers les autres. Par exemple, les hippies des années 60 se distinguaient par leur tenue vestimentaire, par leur chevelure et par une liberté ostentatoire dans leurs relations amoureuses. C'était une manière de rejeter les valeurs traditionnelles de leurs parents. L'un des leitmotifs des hippies, c'était « Faites ce que vous voulez faire et ne vous préoccupez pas de ce que les autres en pensent. » Et quelque part, c'est cette même pensée qui anime les femmes de Corinthe à ce moment-là. Mais alors, que communiquait le voile dans la Corinthe des années 50 après Jésus-Christ ? Eh bien, selon les conventions de l'Église, de la société gréco-romaine de l'époque, le voile, c'était un marqueur féminin. Les femmes seules portaient un voile. Et c'était en particulier des femmes mariées. C'était donc un signe marital, c'était un signe d'un engagement avec un époux. Et donc, voici les principes que j'aimerais que l'on regarde et qui sont certainement encore en vigueur pour nous aujourd'hui. D'abord, que les distinctions hommes-femmes doivent être préservées. On verra ensuite que le genre masculin-féminin n'est pas une construction sociale. Et puis enfin, on verra que Dieu veut une belle complémentarité. Regardons d'abord, les distinctions doivent être préservées. Au verset 2, Paul commence son discours en disant « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » J'imagine ici que Paul dit « Je sais, au fond, que vous allez m'écouter. Je sais que vous allez prêter attention à ce que je vous dis. » C'est comme s'ils préparent leur cœur à entendre peut-être des choses un petit peu compliquées ou un petit peu difficiles à entendre. Mais auxquels ils demandent leur adhésion, leur obéissance. Il semble que certaines femmes aient mal compris la liberté et la nouvelle identité que l'Évangile offre aux femmes. Et elles ont rejeté toute distinction. Et du coup, leur attitude devient scandaleuse dans la vie de l'Église. C'est comme si elles disaient « Maintenant que je suis à Christ, tout m'est permis, peu importe, Dieu regarde à mon cœur. » Et c'est vrai, Dieu regarde à notre cœur et il s'intéresse premièrement aux choses qui se passent dans notre cœur. Mais notre cœur devrait avoir un impact sur notre tenue, sur notre manière d'être. Et quand Paul dit vous retenez mes instructions, j'imagine qu'il fait aussi référence à tout ce qui précède. Au chapitre 9, par exemple, il vient de dire au verset 19 « Car bien que je sois libre, hein, c'est ce qu'elles prétendent être, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Au chapitre 10, versets 23 et 24, il dit « Tout est permis. » Oui, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, oui, mais tout n'édifie pas. Donc je ne fonctionne pas comme si j'étais indépendant complètement de ce que les autres pensent, de ce que les autres voient de moi. Et puis, toujours dans le chapitre 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça qui doit nous animer, la gloire de Dieu. Et puis il continue en disant, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez en étant observé par les habitants de Corinthe. Vous vivez aussi en relation avec vos frères, vos sœurs. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. N'en faites pas qu'à votre tête. De la même manière, verset 33, que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Voyez-vous, il dit, faites tout à cause de l'Évangile. C'est ça qui doit nous animer. C'est ça qui doit remplir nos cœurs. Nous ne vivons pas d'une manière indépendante les uns des autres. Et Paul énonce au verset 3 un principe fort, un principe général de soumission. Il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Le mot pour chef ici, c'est « tête ». C'est comme si Dieu dit... Comme si Paul dit, Dieu a établi dans sa sagesse un ordre dans toutes les relations pour qu'il y ait de l'harmonie. Dans la relation des hommes avec Dieu, c'est l'homme qui est soumis à Dieu. Dans le couple, c'est l'épouse qui est soumise à son mari. Et ça, c'est d'autant plus facile si le mari est soumis à Christ. Si Christ, je vous invite à réfléchir à ça. Si tout homme est soumis à Christ, alors ça devient beaucoup plus facile pour les femmes d'être soumises à leur mari. Et même au sein de la Trinité, dans laquelle les trois personnes ont une égale valeur, une égale dignité, une égale puissance et une parfaite unité, Christ est soumis au Père. De sorte que la soumission témoigne non pas d'une inégalité ou d'une infériorité, mais d'une différence de rôle. Et l'abandon de l'ordre déshonore notre chef. Verset 4, il parle d'un homme. Si un homme prie ou qu'il prophétise, la tête couverte, il déshonore son chef. Si aujourd'hui j'étais habillé en femme, si je me prenais pour une femme, je déshonorerais mon chef. Mon chef Christ, qui a fait de moi un homme et qui attend que je joue ce rôle d'homme dans mon église et dans ma famille. Si une femme dans l'Église rejette le voile, ici, dans le contexte des Corinthiens, ce voile qui rappelle, dans la société grecque de l'époque, son respect volontaire et joyeux à son mari, eh bien, elle déshonore son mari. Parce que l'absence de voile chez une femme à l'époque évoquait plutôt l'immoralité ou l'infidélité, et en tout cas certainement une attitude d'indépendance. Verset 5, il dit « c'est comme si elle était rasée ». C'est-à-dire, c'est une honte pour son mari. Un peu comme le sort qui était réservé, vous savez, aux femmes qui s'étaient liées pendant la Seconde Guerre mondiale à des soldats allemands. On les rasait. C'était une honte pour leur famille, c'était une honte pour ces femmes. Parce qu'elles avaient été soit adultères ou en tout cas légères. Et on rase ce voile naturel qu'elles ont. Hein, au verset, dans la fin du passage, il dit que la chevelure est donnée comme un voile naturel. Et puis il explique au verset 7 à 9 que cet ordre provient de la relation, cet ordre dans la relation homme-femme provient de la création. Et ça, c'est la création. Et donc, ça veut dire que ça revient avant la chute, avant que nos cœurs soient corrompus, avant que l'homme n'abuse de son autorité par égoïsme ou qu'il ne l'abandonne par lâcheté, avant que la femme ne cherche à usurper le leadership de l'homme ou qu'elle s'abandonne, qu'elle abandonne sa joie et dans une soumission servile. Non, cet ordre est établi alors que l'homme et la femme s'aiment parfaitement, dans une parfaite harmonie. Aujourd'hui, dans notre société française, le voile ne signifie pas que la femme est mariée et fidèle, attachée à son mari. C'est probablement le cas encore dans certaines cultures, dans certains pays, mais pas dans la pensée républicaine française. Alors, quelles sont les marques qui distingue dans notre époque l'homme et la femme? C'est vraiment difficile. Franchement, c'est vraiment difficile parce que notre société cherche à gommer toutes ces distinctions. Il y avait certainement des distinctions qui étaient injustes et qu'on a bien fait de gommer. Il y a aussi des distinctions qui étaient bonnes et qu'on n'aurait peut-être pas dû gommer. Les tenues vestimentaires, je pense, et les cheveux marquent toujours une certaine différence. Même si c'est un combat, parce qu'il y a une pression d'une mode unisexe, et donc c'est... voilà. Mais normalement, les tenues des femmes sont différentes des hommes, et leur coupe de cheveux également. J'ai remarqué que le retour en force de la barbe et de la moustache affiche aussi une nette différenciation. Et j'espère que ça va durer. Dans notre culture, par exemple, la femme prend le nom de son mari. Là encore, c'est en France. Hein, il faut adapter la chose. C'est en France, c'est notre culture. La France prend en généralement, l'épouse prend généralement le nom de son mari. Même si aujourd'hui, c'est de plus en plus remis en question. J'ai lu que toutes ne rejettent pas le nom du mari. Au contraire, pour nombre de femmes, c'est même une nouvelle naissance. Changer de nom, c'est changer de destin. C'est ce que dit Perla Servan-Schreiber dans son livre « La féminité, de la liberté au bonheur ». C'est un trait de féminité que de prendre le nom de son mari. Voilà ce qu'elle dit. Considéré par certains comme une attitude archaïque de soumission, le choix de porter le nom du mari est reconnu par d'autres comme la marque d'un désir de partage, d'une volonté d'engagement dans une véritable aventure amoureuse. Alors quand une femme parle de reprendre son nom de jeune fille, ça ne sent pas bon pour le couple en fait. Hein. Elle remet en question son désir de partage, son engagement, ça sonne le glas de l'aventure amoureuse. Elle semble dire à l'extérieur, Je suis libre, je reste ouverte à toute proposition. Mais néanmoins, je pense que c'est peut-être une distinction à préserver, en tout cas à réfléchir. Et je crois qu'on devrait encourager de toute manière possible la distinction, la différenciation entre homme et femme. De rappeler, tu es un homme, on attend, Dieu attend quelque chose de toi particulièrement. Tu es une femme, Dieu attend quelque chose particulier de toi. Deuxième point que l'on voit, deuxième principe, c'est que le genre n'est pas une construction sociale. Aujourd'hui, il y a des courants qui sont très puissants et qui s'efforcent de lutter contre toute différenciation. Ces militantes, puisque ce sont quasiment exclusivement des femmes, dénoncent les jeux sexistes que l'on présente aux enfants dans les catalogues. Vous allez peut-être recevoir des catalogues dans les prochains jours pour les jouets de Noël dans vos boîtes aux lettres. Eh bien, elles disent qu'en exposant les enfants à des jouets sexistes, on conditionne ce qu'est la masculinité ou la féminité. Elles dénoncent le catalogue d'un grand magasin parisien qui estampille les pages de son catalogue avec « Pour les filles, quand je serai grande », et là vous avez des chariots de ménage, des mini ou des maxi-cuisines, « Je serai maman ». Alors là, il y a des poupées, il y a des poussettes. J'aurai des grandes robes. Et alors là, il y a des robes de princesse et toutes roses, bien sûr. J'aurai plein d'amis. Alors là, il y a Barbie, atelier de cosmétiques, centre commercial rose, salon de beauté rose, halte garderie. Je serai une grande créatrice. Et là, il y a les kits pour créer une collection de mode, sacs, accessoires, journal intime. Et puis après, il y a les pages garçons. Moi, je serais un super-héros. Alors là, la liste, Spider-Man, Arthur et les autres héros de films à succès. Je serais le plus rapide de la Terre. Alors là, il y a les pages circuit, automobile, train. Je serais le plus fort aussi. Alors, voiture, tracteur, garage, avec plein de missions. Mécano, police, armée. J'aurais des super-pouvoirs. Là, il y a les sabres. Il y a l'armement de guerre des étoiles et tout ça. Et plein d'équipements, motos, robots. Et puis des fois, je voyagerai dans l'espace, vaisseaux spatiaux et dans le temps, châteaux. Vous voyez un peu les pages. Beaucoup de personnes, dont les fabricants de jouets, disent « Mais ce sont les enfants eux-mêmes qui réclament tel ou tel jouet. » Alors la question, c'est est-ce que c'est la société qui conditionne nos enfants ou est-ce leur nature de garçon ou de fille qui détermine leur attirance pour tel type de jouet ? C'est pas facile à répondre, hein, cette question. Il faut probablement pas minimiser les codes culturels et les attentes de la société sur la construction de l'identité sexuelle d'un enfant. Mais un garçon ne sera jamais une maman. Non pas parce que la société ne l'y autorise pas, mais parce que son créateur l'a fait homme. Le genre provient de notre créateur, qui nous a fait littéralement mâle ou femelle. Les hommes sont plus forts physiquement. Alors là, excusez-moi, je vais faire des généralités. Vous ne m'attrapez pas à la sortie en me disant « Mais Martina Navratilova, quand même, elle est très très forte. » Non, s'il vous plaît, c'est juste des généralités, hein, d'accord ? Mais physiquement, les hommes sont plus forts. Leurs os sont plus gros. Ils sont plus grands et plus gros que les femmes. Et de ce fait, ils sont attirés par tout ce qui est pouvoir, force, puissance, d'où les sabres, d'où les armes, d'où les tracteurs et les voitures. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont ce rôle de protecteur, de sauveur dans leur famille, dans la société. D'où le pompier, le gendarme. Les femmes possèdent un utérus pour accueillir un enfant. Elles sont dotées d'une poitrine pouvant nourrir leur bébé. Elles ont été créées pour donner la vie, pour nourrir. Du coup, elles sont plus naturellement tournées vers les enfants. De ce fait, c'est le sexe masculin ou féminin qui détermine leur genre. Voilà pourquoi, et là je fais encore des généralités, une fillette va s'intéresser à une cuisine dans un catalogue de jouets et un garçon à une panoplie de pompiers. Et ça n'est pas mal. Ça n'est pas mal. C'est très bien. Certainement, à cause de nos cœurs qui ont été pervertis par le péché, des abus ont eu lieu, dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, ça a pu provoquer chez les uns, chez les autres, des réactions différentes. Quand un homme abuse d'une enfant, un père abuse de son enfant, on peut bien imaginer que dans la construction de cet enfant, celui qui aurait dû le protéger ne l'a pas fait, mais au contraire l'a fait souffrir. Alors qu'elle rejette toute la masculinité, ou les hommes. Tout le monde peut comprendre ça. Mais le problème n'est pas un problème au niveau de la création. C'est la suite, le problème est dû au péché. Et c'est ce qui devrait nous faire réfléchir. Le machisme n'est pas plus biblique que le féminisme. Ce sont deux perversions du plan de Dieu. Les rôles que Dieu nous a donnés sont des rôles aussi qui ne sont pas complètement étanches, dans le sens où les hommes ne sont pas interdits de cuisine et les femmes ne sont pas interdits de planter un clou ou de monter sur une échelle. Il y a un danger dans le cloisonnement strict et il y a un danger dans la confusion des genres. Quel est le problème de tout ça au fond? On voit bien, il y a un péché au fond de notre cœur. Il y a une rébellion. Au fond, il y a une rébellion qui s'exprime. On rejette ce que Dieu a fait de nous. Et du coup, cette rébellion vise qui? Elle vise Dieu, celui qui a établi l'ordre. Mais on ne peut pas atteindre Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend à son image. Quand on ne peut pas atteindre un chef, on s'en prend à son image, à son effigie. Dans toutes les contestations, on brûle, déchire, on caricature, on décroche les portraits du président ou du chef en place. L'homme, il est l'image de la gloire de Dieu. L'image de Dieu et sa gloire. Alors, en travestissant les rôles, les tenues, en travestissant les genres, on cherche à atteindre Dieu, le Créateur. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a aucune issue là-dedans. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est dénoncer le péché dans nos propres cœurs, dans notre société, et puis revenir et se soumettre à Dieu. Regardez ce que Dieu veut. Dieu veut une belle complémentarité. La relation entre les genres n'est ni une domination et un asservissement, ni une similitude et puis interchangeabilité. C'est plutôt une belle complémentarité. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Ils ont le même accès au salut. Galates chapitre 3, verset 28 dit « En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec. On a tous cette même possibilité de rentrer en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Il y a une égalité sur notre relation. Et puis enfin, il dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 7, que les femmes doivent hériter. Il dit aux hommes, prenez soin, honorez vos femmes, parce qu'elles doivent hériter de la même manière que vous du salut. Notre propre héritage éternel sera le même pour l'éternité. L'homme et la femme ont la même dignité, la même valeur et la même importance dans l'Église, dans la société, au regard de Dieu lui-même. L'homme, comme la tête qui exerce une autorité aimante, que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans la conduite de l'Église, et les femmes, comme aide, complète, embellissent, achèvent l'œuvre des hommes. Chez nous, c'est moi qui m'occupe du potager. Je ramène ce que je peux de tomates et potirons, etc. Et avec ça, ma femme fait des choses extraordinaires. Manger un potiron qui sort direct du potager, c'est pas terrible, hein. Mais quand il a été cuisiné, quand il est passé au thermomix, là, ça devient quelque chose de bien. Et à la fois, ma femme est contente de moi, et moi, je suis content de ma femme. Et il y a une belle complémentarité. C'est pareil pour les lapins. Je vous fais la description, ou les poules, on tue, et c'est ma femme qui cuisine. Mais avant ça, j'ai élevé, nourri, et engraissé, et voilà. Pour le bricolage, c'est pareil. Moi, je vais scier ou je vais percer les trous et elle va poser les rideaux. Si on ne se complémentait pas, c'est ça ? Eh bien, ma femme aurait des rideaux sur une chaise et moi, je n'aurais pas de rideaux. Et donc, il y a une belle complémentarité dans toute chose. Et dans l'Église, il en est ainsi. Il y a une complémentarité. Les femmes à Corinthe disaient « Oui, je veux être cette femme complémentaire pour mon mari » en mettant un voile. En ôtant leur voile, c'est comme si elles disaient « Je n'ai plus besoin de mon mari, je me fiche de mon mari. » Comprenez un peu la force du message. Et Paul dit « Non, revenez au voile. » Mais aujourd'hui, pour nous, pour notre société, avoir un voile ou pas avoir de voile, ça dit rien, là. C'est pas l'habit qui fait le moine. Et du coup, Paul, il veut nous enseigner le principe d'obéissance et de soumission de la femme à son mari et à l'autorité de l'Église, parce qu'il y a un vent de désordre qui souffle dans cette assemblée. Et à chaque époque de son histoire et dans chaque culture, l'Église doit chercher comment le principe théologique qui est décrit ici s'articule, se met en place dans les circonstances particulières d'un peuple. Et c'est ça toute notre difficulté. Deux implications que je voudrais faire. D'abord, il y a une dépendance mutuelle. Dans les versets 11 et 12, Paul équilibre aussitôt ses propos qu'il vient de tenir en nous gardant d'opposer les genres et de dresser dresser les uns contre les autres, mais d'imaginer que c'est ou d'imaginer que c'est mieux d'être un homme ou d'être une femme. Ça, il dit ça, c'est ridicule. Verset 11, il dit l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Et puis il dit ensuite et tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu l'a mis en place comme ça. C'est magnifique. Des implications de ça. Nous avons besoin, les uns des autres, ou l'homme de sa femme, ou la femme de son mari, pour nous reproduire. On vient d'avoir une belle brochette là, de parents avec leur bébé. Derrière chaque enfant, il y a un père et il y a une mère. Même si aujourd'hui, on vote des lois qui voudraient nous pousser à nous passer les uns des autres. François-Xavier Bellamy a dit ceci. Depuis son apparition, la médecine a pour but de remédier à la maladie. Dans ce cadre, la loi autorisait la PMA, la procréation médicalement assistée, pour pallier une infertilité pathologique qui devait être médicalement constatée. Si nous supprimons ce critère, la technique médicale ne servira plus qu'à rétablir, non plus à rétablir l'équilibre de la condition humaine, mais à dépasser ses limites. Une fois cette nouvelle logique acceptée, je ne vois pas ce qui nous arrêtera. Elle nous conduit directement au transhumanisme dans la transformation technique de nos corps. Et il s'alarme en disant « Rompre avec la condition humaine parce que ses limites frustrent nos désirs, je crois que ce choix sera notre malédiction. » Donc, on a besoin. Et aujourd'hui, on est en train de parler de PMA pour toutes. Ça induit dans les temps à venir la GPA, la gestation pour autrui, la commercialisation du corps, etc. C'est toutes ces questions qui sont en jeu au travers de ces passages-là. C'est très important. On a besoin d'un père et d'une mère, d'un homme et d'une femme. Et puis, la deuxième implication, peut-être plus pour l'Église, nous avons besoin les uns des autres pour servir ensemble dans l'Église et dans le monde. Imaginez une Église d'hommes. Imaginez une Église de femmes. On a besoin de cet équilibre qu'apportent hommes et femmes. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont versés dans les Écritures, qui sont capables d'encourager, d'accompagner, de servir, d'instruire les croyants pour leur transformation à l'image de Jésus-Christ. Les femmes ont joué un rôle vital dans l'œuvre de Dieu depuis le début. Lors de la Pentecôte, elles étaient présentes avec les disciples, persévérantes dans la prière. Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, a ouvert sa maison à l'église de Jérusalem en pleine période de persécution. Il fallait du cran, il fallait du courage, il fallait une foi et un enracinement en Jésus-Christ pour pouvoir faire une chose pareille. Lydie a fait la même chose, a ouvert sa maison pour les croyants de Philippe. Aquilas et son épouse Priscille ont accueilli Apollos chez eux pour lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. De nombreux champs missionnaires ont été commencés par des femmes partout dans le monde. Une église qui ne contient pas de femmes consacrées ne peut être une église forte, une église efficace. Au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, on rejette ce que Dieu a fait de nous. Et on rejette les lois et l'ordre qu'il a lui-même établi. On rejette notre dépendance mutuelle, les uns envers les autres, pour s'affranchir les hommes des femmes et les femmes des hommes. Pour un texte qui semblait complètement déconnecté avec notre temps, c'est étonnant combien, au contraire, il est pertinent pour notre époque, n'est-ce pas ? Quelques mots de conclusion. L'ordre de Dieu a établi des rôles aux hommes et aux femmes. Et c'est bon, et c'est sage, et c'est glorieux. Quand Paul écrit aux Éphésiens et qu'il veut présenter la relation homme-femme, il parle de Christ et de son Église. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus glorieux que la relation entre Christ et son Église ? Vraiment, c'est glorieux ce que Dieu fait entre cette complémentarité. Les conséquences, quand on abandonne ces choses, ce qui s'est passé à la chute. À la chute, finalement, hein, en Genèse chapitre 3, ça a été l'abandon des rôles de l'homme et de la femme. L'homme avait reçu l'ordre de garder le jardin, de ne pas prendre de cet arbre. Il a regardé sa femme prendre le fruit. Et puis quand elle est venue lui emporter, il en a pris. Et comme c'était lui qui avait été désigné responsable pour son foyer, c'est lui, même si la femme avait d'abord été séduite par Satan, c'est lui que Dieu est venu voir. Et lui a demandé de rendre des comptes. Et c'est ce que nous devrons rendre des comptes, chacun, chaque homme, chaque mari, pour notre relation avec nos épouses, avec notre famille. Quand on abandonne nos rôles, les conséquences sont dramatiques, sont désastreuses. Et nous supportons encore aujourd'hui toutes les conséquences. Par la foi en Christ, nous sommes pardonnés et nous pouvons être restaurés dans une compréhension nouvelle de ces rôles. L'Église rassemblée, c'est un cadre où le royaume de Dieu se rend visible pour le bien des chrétiens et pour un témoignage dans le monde. Et c'est pourquoi on s'efforce dans l'Église de respecter l'ordre créationnel, l'ordre que Dieu a établi. Deuxième pensée. Si vous êtes là et que vous entendez ces choses pour la première fois, si elles vous surprennent ou si elles vous choquent, j'aimerais vous inviter à, s'il vous plaît, à accepter de regarder les conséquences funestes de l'abandon des rôles. Et d'ouvrir les yeux peut-être davantage sur la volonté, la rébellion dans le cœur, dans nos propres cœurs et dans notre société à l'égard des choses établies par Dieu. Et si vous réalisez que, effectivement, c'est Dieu qui a raison, pourquoi ne pas simplement vous repentir et croire que l'ordre du Créateur est le meilleur, celui qui procure la plus grande joie, la plus grande gloire. Et enfin, la liberté à laquelle les femmes de Corinthe aspiraient en rejetant le voile, ça n'est pas l'absence d'un cadre, ça n'est pas le rejet de toute forme de règles, ça n'est pas se soustraire à l'autorité, à toute autorité ou à toute loi. Imaginez un poisson qui voudrait s'affranchir de son environnement aquatique pour goûter à la liberté d'évoluer sur l'herbe. Sa liberté serait mortelle. La vraie liberté, c'est de pouvoir vivre dans le cadre que Dieu a établi pour nous, pour notre bien, pour notre épanouissement, pour sa gloire. En acceptant la domination de Dieu sur nos vies, et nous jouissons vraiment de la liberté, pas en la rejetant. Et Jésus-Christ, lui, s'est présenté à nous comme le roi, mais non pas comme le roi tyrannique, non pas comme un oppresseur, mais au contraire comme un serviteur. Il s'est fait homme, il s'est fait serviteur de tous pour gagner nos cœurs. Et ça, c'est le modèle que nous devrions rechercher, garder en tête. Et quand on a ça sur nos cœurs, eh bien alors on est prêt à prendre soin de chacun, chacune dans l'Église. Prions Dieu, et puis je vais inviter aussi notre équipe de musiciens à revenir pour qu'on chante un dernier chant.